Radio Okapi.
Maisha bora.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de Maïcha Bora qui s'épanche aujourd'hui sur la quatrième vague du Covid-19 en RDC. Marcel Gomboumbala est à la présentation de ce nouveau numéro de Maïcha Bora. La mise en onde est assurée par JC Siala sous la supervision de Jean-Marc Mataki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. En RDC, c'est depuis le 13 décembre 2021 que le pays est entré officiellement dans la quatrième vague du Covid-19. Que faut-il retenir de la riposte contre le Covid-19 et plus particulièrement de cette quatrième vague dont la particularité, contrairement à la troisième vague, est la circulation du variant Omicron? Nous en parlons avec le docteur Michel Mouvoudi dans ce nouveau numéro de Maïcha Bora. Il est membre de l'équipe de sensibilisation contre le Covid-19 à NERDC. Sur les experts de l'équipe de riposte contre le Covid-19, le pic a été vite atteint et les cas de Covid-19 ont tendance à la baisse. Mais quelles sont les caractéristiques de ces quatrième vagues et quels ont été les constats faits sur le terrain comparativement aux trois vagues précédentes? Les explications avec le docteur Michel Mouvoudi.
Ce qu'on peut retenir, c'est quatre points essentiels. Donc, le premier point d'abord, c'est que la quatrième vague était tout à fait vraie, officiellement annoncée par le ministre de la Santé, après justement pour confirmation des organes techniques, notamment le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Et donc, cette vague avec cette caractéristique d'avoir une contamination très fulminante, parce que vous avez vu qu'en termes de pic, cette vague avait le pic le plus élevé quand on compare ce qu'on a eu à la première, à la deuxième et à la troisième vague. Donc ça, c'était très important de le savoir. Deuxième élément sur cette vague, c'est qu'en fait, contrairement à d'autres vagues, et même à travers le monde, lorsqu'on avait le variant Delta, on a constaté quand même que les hôpitaux n'ont pas été autant bondés comme on a vu aux vagues passées. Et donc, ce qui nous faisait croire justement à ce que l'Omicron, donc la souche Omicron, était moins virulente que la souche Delta qui entraînait beaucoup de cas graves et sévères. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et c'est comme ça que vous avez vu qu'on n'a pas eu une sollicitation accrue, n'est-ce pas, des services hospitaliers. Mais on a eu beaucoup de contaminations quand même. Et c'était, Dieu merci, des formes légères ou des formes tout à fait bénignes qui se sont traités soit en ambulatoire, soit à la maison, ok, ou soit en isolement simple. Donc ça, c'est vraiment une deuxième dimension qu'il faut comprendre. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que cette quatrième vague est arrivée dans un contexte très difficile parce que c'était d'abord la fin de l'année. Et vous savez très bien ce qui se passe autour de chaque fin d'année. Ce sont les festivités, ce sont les moments de rencontre. Donc du coup, on était face notamment à un mouvement social, on était face à des événements sociaux qui sont quasi présents dans la manière de vivre des Congolais, versus il fallait restreindre un certain nombre de contacts pour éviter que les gens ne puissent se contaminer en masse. Donc ça, je crois que c'est très important à le savoir. Mais aussi, je termine par là, le quatrième point, c'est qu'en fait, on a constaté justement qu'au mois de décembre, on avait vacciné le plus de gens. Donc nous étions cette fois-là, au moins en pleine phase de vaccination. Rappelez-vous que ce ne sont pas toutes les vagues qui nous ont trouvés en train de vacciner. La quatrième vague a trouvé justement la vaccination contre la Covid-19 lancée. Et si vous regardez bien, par exemple, au mois de décembre, on a vacciné autour de 115 000 personnes, okay, du moins la première dose, ce qui montrait justement aussi que potentiellement que cette vague a rappelé encore une fois de plus la nécessité de se faire vacciner pour éviter des situations assez catastrophiques. Voilà un peu ce qui s'est passé. Mais donc aujourd'hui, si vous regardez, on a commencé une tendance baissière, une déplétion quasi nette du nombre de cas. Donc d'ailleurs, le secrétaire technique l'a confirmé qu'en fait, la quatrième vague commençait déjà à passer. Mais encore une fois de plus, quatrième veut dire troisième, troisième veut dire quatrième, quatrième peut aussi signifier cinquième. Donc on reste toujours vigilant, on revient toujours sur les mêmes mesures, dont notamment la question de vaccination qui est tout à fait importante. Il faut vous faire vacciner, c'est le message que nous lançons partout, mais aussi il faut faire un effort pour respecter les mesures barrières.
Pour cet expert de l'équipe de sensibilisation contre le Covid-19, il est certes vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui se font vacciner, mais cela est encore loin d'atteindre les 15% des personnes attendues pour la vaccination contre le Covid-19 en RDC.
Bon, alors, je ne peux pas vraiment vous dire ici que moi, personnellement, vous savez, j'ai été très engagé dans la lutte contre la Covid-19 depuis le mois de mars 2020. Et en termes de vaccination, je vous avoue sincèrement qu'on n'est pas encore satisfait. Ok? Bon, vous regardez aujourd'hui notre couverture à la première dose, c'est autour de 0,6%. La couverture à la deuxième dose encore très faible, autour de 0,1%. Et quand vous regardez ceux qui sont complètement vaccinés, c'est autour de 0,3%. Nous nous étions fixé un objectif de vacciner au moins 15% de la population, ok? Mais aujourd'hui, nous sommes très bas. Et très bas, là, quand je parle de très bas, c'est même quand on nous compare à d'autres pays africains, comme l'Angola, le Congo-Brazza, le Rwanda. Donc, on n'est pas vraiment arrivé encore à une meilleure couverture. Je pense que je pourrais vous donner les raisons parce que nous faisons des analyses approfondies pour comprendre pourquoi on ne décolle pas. Mais je crois qu'ici, le message à lancer, c'est de dire clairement, et là, on ne peut pas se voiler la face, que nous avons des performances vaccinales très faibles en matière de lutte contre la COVID. La population doit adhérer à cette vaccination. Les raisons sont à la fois liées au fait que on n'a pas eu suffisamment de communication pour que les gens comprennent le rôle de la vaccination, le bien fondé de la vaccination et qu'on attaque aussi toute l'infodémie, donc toutes les informations fausses qui ont circulé de manière évidente dans la population, d'une part. Mais d'autre part aussi, il faut déployer le maximum de sites. Vous savez, aujourd'hui, on a des gens qui veulent se faire vacciner, mais malheureusement, qui sont bloqués tout simplement parce que ils ne voient pas où aller. C'est trop loin. Il y a même des provinces, rappelez-vous, je vous l'avais mentionné une fois dans une émission, sur les 26 provinces de la RDC, il y a 15 qui vaccinent, on n'a qu'autour de 485 sites, je ne me trompe pas, qui vaccinent, alors qu'on devrait en avoir des milliers. Donc, encore une fois de plus, nous devons beaucoup travailler sur la vaccination, parce que la vaccination, c'est un moyen de prévention. Vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, si nous mettons beaucoup d'accent sur ça, je crois que nous allons potentiellement éviter des prochaines vagues, donc on va éviter une cinquième vague. Donc, tout le travail à faire, ensemble avec la population, pour arriver à des résultats escomptés.
Faudrait-il le rappeler, à l'heure actuelle, la RDC dispose de différents types de vaccins. Il existe des sites de vaccination implantés dans le pays. Cependant, beaucoup de personnes hésitent encore à se faire vacciner alors que la vaccination est un moyen efficace de lutte contre le Covid-19. Suivant le docteur Michel Mouvoudi qui revient sur les différents types de vaccins dont dispose la RDC à l'heure actuelle et des avantages liés à la vaccination contre le Covid-19.
Alors, premièrement, nous avons le Moderna. Ok, nous avons le Moderna. Je pourrais vous dire que le Moderna est là. Donc, nous avons pratiquement autour de plus de 400 000 doses hein, qui sont distribuées dans les provinces. Nous avons le vaccin Pfizer, nous avons le Sinovac, en fait, ok, nous avons le vaccin à monodose qu'on appelle le Johnson & Johnson, d'accord? Ce sont là les quatre vaccins que nous avons en République démocratique du Congo. Et pour votre information, très rapidement, à la date du 22 janvier 2022, donc si je me réfère au tableau qui a été partagé par le programme L'Agence de vaccination, le programme a distribué presque 440 000 doses dans les provinces pour le Moderna, 613 000 doses pour le Pfizer, 400 000 doses pour le Sinovac et plus de 870 000 doses pour le vaccin Johnson & Johnson. Donc, on a des vaccins dans le pays. Alors, l'avantage de se faire vacciner, ici, je voudrais d'abord que les gens lèvent un doute qui plane. Selon quoi, oui, mais pourquoi est-ce que les gens qui se font vacciner font la maladie? La vaccination prévient contre les formes graves et sévères. Donc, c'est ce qui est important. Ce que nous voulons ici, c'est éviter que les gens ne meurent. Vous savez que lorsque vous êtes malade et que vous entrez dans une situation de gravité ou de sévérité, non seulement que les soins coûtent cher, mais aussi nous n'avons pas toujours de la disponibilité en intrant, dont l'oxygène, pour vous prendre en charge. Donc, le fait de se faire vacciner vous évite, n'est-ce pas, d'aller vers des formes graves ou sévères. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage aussi, c'est que en nous faisant tous vacciner de manière collective, nous développons cette immunité. En développant l'immunité, justement, nous créons des anticorps qui peuvent nous protéger contre des éventuelles attaques, okay? Notamment sous des formes très, très sévères ou des formes très graves. Je crois que ça reste très important à comprendre. Et troisièmement aussi, c'est que le vaccin est gratuit. Ok, il est gratuit, il est simple, il se donne. Je crois qu'en vous faisant vacciner, vous ne payez rien, mais demain, si vous avez la maladie et qu'on doit vous hospitaliser, les soins ne sont pas gratuits. Donc, vous devez devoir payer. Donc, encore une fois de plus, la prévention reste le maître mot. Au-delà de ça, évidemment, nous avons les gestes barrières, mais j'invite nos populations à se faire vacciner. Vous lisez, vous suivez le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, vous suivez les communiqués du professeur Jean-Jacques Mouyembe, le coordonnateur du secrétariat technique, tout le monde, y compris nous-mêmes, nous martelons sur cette vaccination. Elle est importante. Le monde entier est en train de vacciner parce que par moment, on pense que c'est seulement nous qui vaccinons. Non, tout le monde est en train de prendre le vaccin. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que pour plusieurs voyages, pour plusieurs déplacements, pour justement contribuer à la sécurité mondiale en rapport avec cette question, on commence à exiger aussi la vaccination avant de prendre votre vol. Donc je crois qu'on a tout intérêt à le faire et c'est comme ça que notre pays va aussi contribuer à cet effort de l'humanité dans la lutte contre la Covid.
Les experts affirment que plus il y aura un grand nombre de personnes qui se feront vacciner, plus la population pourra développer ce qu'on appelle une immunité collective. Que faut-il comprendre par immunité collective?
C'est tout simplement que nous vivons dans une communauté, d'accord? Nous sommes des éléments d'un ensemble. Moi, je me fais vacciner, vous faites vacciner. In fine, nous sommes tous dans une communauté où nous développons des anticorps, ok? Le fait que nous sommes nombreux à être protégés, ok? Si chacun de nous est protégé, nous devenons nombreux dans la communauté à développer cette protection. Donc, c'est une immunité quelque part qui est collective. Vous comprenez ça? Ça veut dire, en d'autres termes, notre communauté, n'est-ce pas, commence à devenir une communauté résiliente vis-à-vis d'un microbe, vis-à-vis d'un pathogène. Et ça, c'est très important. Donc, c'est comme ça, justement, qu'on pousse le plus grand nombre de personnes à se faire vacciner pour, justement, développer cette immunité d'ensemble. Ça veut dire, un se fait vacciner, deux se fait vacciner, trois se fait vacciner. Si l'ensemble est constitué de trois personnes, vous comprenez que tout le monde se fait vacciner et donc nous avons justement cette circulation dans la communauté des anticorps. Donc c'est ça justement que nous voulons avoir parce que si nous tous on ne se fait pas vacciner, nous laissons des poches, ok? Et ces poches peuvent entretenir la circulation du virus et toucher des personnes, surtout celles qui ont des problèmes de risque ou ceux qui ont des facteurs de risque, excusez-moi le terme. Et ça va justement alourdir notre situation et entraîner des cas de mortalité très élevés.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix et vous suivez en ce moment Maïcha Bora, votre magazine de promotion des questions de santé et bien-être sur Radio Okapi qui s'intéresse aujourd'hui à la lutte contre le Covid-19 en RDC, plus particulièrement de cette quatrième vague à laquelle le pays fait face depuis le mois de décembre dernier. D'après les experts de l'équipe de riposte contre le Covid-19 en RDC, le pic de cette quatrième vague a été vite atteint et que le nombre de cas ont une tendance à la baisse. Mais cependant, il faut continuer à respecter les mesures barrières et surtout à se faire vacciner. Vous savez, l'une des particularités de cette quatrième vague est la suppression du variant Omicron. Qu'en est-il de l'efficacité des différents vaccins face à ces variants Omicron? Les explications avec le docteur Michel Moufoudi. Nous rappelons qu'il est membre de l'équipe de sensibilisation contre le Covid-19 en RDC.
En termes de variants, ce qu'il faut savoir, c'est que on a développé justement les vaccins à partir des premières souches, donc à partir du SARS-CoV lui-même comme virus. Mais quand vous avez un variant qui se déclare, c'est vrai que le vaccin n'a pas la même efficacité sur la souche que sur la souche variante, hein, que sur la souche primaire. Mais il y a quand même une efficacité. C'est pour cela justement que vous voyez dans certains pays, on recommande de répéter les doses. Parce que tout simplement que une souche qui arrive peut échapper, n'est-ce pas, à une certaine frappe du vaccin. Mais ce n'est pas dire que le vaccin est totalement inactif ou totalement inefficace devant une souche. Alors, en lieu et place de ne rien avoir et de vous laisser sans protection, pourquoi ne pas justement avoir cette immunité, cette protection, même si elle n'est pas optimale que dans la situation où on n'avait pas de souche. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un peu comme si vous avez devant vous un bandit qui a des antiballes, ok? Mais en lieu et place d'avoir une arme mitraillette qui peut facilement l'assommer, mais le fait d'avoir au moins un revolver, ça peut faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux comprendre? Donc il faudra ici que les gens comprennent que nous avons d'abord cette notion de n'avoir au moins un niveau d'immunité au lieu d'être sans immunité, ok? Au lieu d'être sans protection, d'une part. D'autre part aussi, il y a des contextes là où les variants ne sont pas dominants, d'accord? Il y a beaucoup de pays comme le nôtre où, par exemple, à l'époque, déjà avec le virus Delta, nous n'avions pas des variants dominants comme c'est le cas dans certains pays comme l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, l'Europe. Mais donc, du coup, pour nous, le vaccin peut encore avoir beaucoup d'effets positifs parce que les variants ne sont pas autant dominants qu'ailleurs. Donc, pour moi, je crois que le fait qu'on a eu des variants pendant qu'on est en train de vacciner ne devrait pas nous désarmer, ne devrait pas nous pousser à dire non, maintenant qu'on a des variants, il faut croiser les bras, ça veut dire que le vaccin ne peut rien faire. Non, le vaccin garde garde un niveau d'efficacité nécessaire quand même à pouvoir se protéger. Mais comme vous le savez, les scientifiques ne croisent pas les bras. Vous avez suivi les discussions au niveau de l'OMS. On pousse encore davantage les chercheurs à développer des vaccins qui intègrent notamment cette question de variants. Ça veut dire qui intègrent, n'est-ce pas, la dimension d'être efficace vis-à-vis des variants. Donc, en attendant, cela ne nous empêche pas de prendre le vaccin actuel, surtout dans notre pays où les variants ne sont pas dominants, mais où aussi on voit partout comme ailleurs que ce vaccin a quand même une certaine efficacité sur les souches actuelles circulantes.
Vous avez sûrement remarqué aussi qu'il y a également cette période une grippe saisonnière dont les symptômes sont presque les mêmes que ceux du Covid-19. Quelle attitude faut-il adopter face à cette situation?
Ce qu'il faut savoir, c'est que, on le dit, hein, je l'ai écrit dans mon livre « Sans questions-réponses pour comprendre la Covid-19 ». La Covid-19, c'est une grippe, en fait. Quand elle se manifeste, quand vous regardez le tableau clinique, c'est quasi une grippe. C'est des maux de tête, c'est des rhumes, c'est des éternuements, c'est des maux de gorge. Du coup, vous avez du mal symptomatologiquement à dire « Ah, mais ça, c'est pas la grippe, ça, c'est la Covid. » Ok? Donc, c'est comme ça qu'il faut d'abord comprendre que toute grippe n'est pas Covid. Parce que c'est un peu ça d'abord la tendance. Quand quelqu'un fait la grippe, ah, il a la Covid. Quand quelqu'un fait la grippe, ah, il a la Covid. Non, il existe des grippes non Covid. C'est comme ça que devant tout cas ou tout signe de suspicion, comme on les appelle, vous faites la fièvre, vous avez des maux de tête, vous avez des courbatures, faites-vous examiner. Faites-vous tester pour exclure cet éventuel Covid. D'accord? Donc, il ne faut pas dire non, d'emblée, ce n'est pas la Covid, c'est une grippe, parce que le diagnostic de la Covid, c'est un diagnostic au laboratoire. On ne peut pas diagnostiquer la Covid seulement à travers les signes. On peut suspecter à travers les signes, mais il faut aller par la confirmation, et la confirmation se fait par des tests connus, le test PCR, et ainsi de suite. Je ne vais pas aller dans les détails. C'est comme ça que, devant une situation de grippe, des signes de grippe, excluez la Covid, et si vous avez la Covid, on vous donne les médicaments qui sont disponibles pour vous traiter contre la maladie. D'accord? Ça, c'est très important. Le deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que, en fait, on a ces genres de situations, nous les avons assez régulièrement dans notre pays, surtout à Kinshasa pendant les périodes chaudes. Donc, novembre, décembre, janvier, c'est des périodes justement où on assiste toujours à des épisodes de grippe. On connaît ça, on le sait. Mais cette fois-ci, on est très attentif et on essaie vraiment de dire à la population, attention, nous sommes dans une situation, comme vous l'avez bien mentionné, de coexistence entre une pandémie qui a commencé depuis l'année 2020 versus une situation transitoire de grippe saisonnière qui va passer. Donc, devant cette situation, il faut consulter le personnel de santé. La troisième dimension, c'est que moi, je suis en train de prendre en charge les malades. Je vois quand même certains signes qui sont quasi renforcés du côté de la Covid-19. Si vous voulez que je vous donne un peu ces différentiels que j'ai remarqués, et ça ne m'engage que moi. Par exemple, quand vous avez la perte du goût et de l'odorat, quasi systématiquement, il faut penser à la Covid. Parce que c'est un peu typique à la Covid. Ce qui n'est pas trop typique dans la grippe. Donc, quelqu'un était bien et puis tout d'un coup, il vous dit, oui, j'ai des rhumes et tout, et puis j'ai perdu l'odorat. Ou j'ai perdu le goût, attention, faites-vous examiner, ça peut être la Covid-19. J'ai remarqué aussi, par exemple, que la plupart des malades qui avaient la Covid me signalaient une fatigue intense. Hein, donc, de ce que vous parlez avec le malade, il vous dit, tout va bien, mais je me sens totalement fatigué, on dirait quelqu'un qu'on a frappé. Dans la plupart du temps, quand j'ai vu ça, donc les fatigues intenses, quand j'ai vu des situations de perte de goût de l'odorat, j'ai demandé à ce qu'on fasse un test, et dans la plupart du temps, ce test est revenu positif. Donc, ce sont là les quelques différentiels qu'il faut avoir, mais moi, le grand conseil que je vais donner à notre population, c'est d'abord, un, de savoir que toute grippe ne signifie pas Covid, il existe des grippes qui ne sont pas Covid, mais devant des signes de grippe dans un contexte comme celui-ci, il faut vous faire tester pour vous rassurer que vous n'êtes pas en train de faire une Covid-19, et si c'est le cas, toutes les mesures doivent être appliquées pour que vous ne puissiez pas contaminer les autres, mais aussi que vous ne puissiez pas développer de formes graves et sévères. Et parmi ces mesures, c'est notamment cette question de pouvoir vous-même d'abord vous protéger. C'est comme ça que le respect des mesures barrières doit continuer. Okay? Donc, même si vous aviez une grippe que vous n'avez pas bien cernée, ou alors vous avez eu la Covid que vous n'avez pas bien cernée, n'oubliez pas qu'il y a des asymptomatiques. C'est pourquoi il faut porter le masque, c'est pourquoi il faut se laver les mains, c'est pourquoi il faut observer la distanciation physique. Parce que vous ne savez pas, à un moment donné, que la toute petite toux qui vous a frappé, le petit rhume qui est passé rapidement, c'était la Covid. On a eu beaucoup de cas symptomatiques, d'ailleurs, plus de la moitié dans notre pays. Ça, c'est très important. D'autre côté, se faire vacciner. Parce que lorsque la maladie vous prend, ok, et que vous n'êtes pas vacciné, très vite, si vous avez des facteurs de risque, vous pouvez développer des formes graves. Alors que si vous êtes vacciné, vous allez voir que les signes seront très passagers et vous allez pouvoir résister contre le choc et cela vous permettra de continuer à vivre.
Le respect des mesures barrières constitue à tout point de vue nécessité qu'il y a des personnes qui peuvent avoir le Covid-19, mais sans en manifester le signe.
Il y a deux volets là-dessus. Le premier volet, d'abord, c'est que, vu qu'on a une forme asymptomatique, la première des choses, c'est d'abord respecter les mesures barrières. Ça, d'abord, la première des choses, ça veut dire il faudra absolument assurer que je respecte les mesures barrières. Pourquoi? Parce que je peux être malade sans le savoir et je contamine l'autre. Et si l'autre, lui, n'est pas symptomatique, il développe la maladie. Et s'il a des facteurs de risque, il va plus vite vers la forme grave. Ça, c'est le premier geste qu'il faut avoir. Que je peux être un malade qui m'ignore. D'accord? Je peux avoir le virus tout en m'ignorant. C'est comme ça que le respect des mesures barrières est de mise. Maintenant, de l'autre côté, c'est vrai que si nous sommes dans un système où on a accès aux tests, l'idéal serait que les gens puissent interroger leur statut, d'accord? Pour savoir est-ce que je suis infecté ou pas. Surtout quand on a été en contact avec des gens, quand on revenait d'un rassemblement, est-ce que nous croisons des gens à longueur de journée ou qu'on a eu des cas dans la famille, parmi les amis, au travail. Mais vous savez très bien, l'accès aux tests n'est pas facile. Et aujourd'hui, c'est parmi les défis que nous sommes en train d'adresser en appuyant le gouvernement sur ça. C'est comme ça que, de manière claire, si vous pouvez accéder au test et interroger votre statut, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, gardez, n'est-ce pas, le respect des mesures barrières comme le socle de vie. OK? Et plus tard, si vous voyez que des signes commencent à venir, ou si vous avez été indexé comme contact parce que vous avez eu un proche qui avait été confirmé à la COVID-19, je crois qu'il faut aussi vous faire tester pour vous rassurer que vous n'êtes pas non plus malade. L'automédication, de manière globale, n'est pas recommandée. Même en dehors de la COVID. Lorsque vous êtes malade, OK? Si vous ne savez pas de quoi vous souffrez, mais aussi vous savez bien l'effet croisé des médicaments, ce qu'on conseille, c'est consulter une structure de santé. Ça doit être clair. Consulter un professionnel de santé.
L'automédication est un comportement évité, insiste le docteur Michel Mouvoudi, aussi bien dans les cas du COVID-19 que pour d'autres maladies.
L'automédication, de manière globale, n'est pas recommandée. Même en dehors de la COVID. Lorsque vous êtes malade, OK? Si vous ne savez pas de quoi vous souffrez, mais aussi vous savez bien l'effet croisé des médicaments, ce qu'on conseille, c'est consulter une structure de santé. Ça doit être clair. Consulter un professionnel de santé. Dans toutes circonstances, c'est pas seulement dans le cas spécifique dont on parle. Dans toutes circonstances, l'automédication est à déconseiller parce que vous ne savez pas ce que vous prenez, mais aussi vous ne savez pas les croisements des médicaments, ce que ça peut vous donner. Il y a ce qu'on appelle les effets antagonistes des médicaments. Donc vous pouvez croiser des médicaments, vous les prenez et ça vous crée des produits toxiques et vous pouvez en mourir. Ça, d'abord, il faut que les gens comprennent. L'autre élément que les gens doivent comprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a le développement des molécules, les recherches continuent pour pouvoir trouver des médicaments efficaces contre la COVID-19. Vous avez suivi tous, on a sorti une pilule, la pilule Pfizer, qui va permettre à ce que, au niveau de l'espace Schengen, qu'on commence à l'utiliser comme thérapie pour les gens qui peuvent développer des formes graves ou sévères. Ça aussi, c'est aussi le cas chez nous. On a eu aussi beaucoup de tentatives bonnes, des gens qui ont mis en place des médicaments qui aident à supporter les symptômes, d'accord? Mais nous avons un protocole que vous savez bien qu'on utilise depuis 2 ans et ce protocole nous a donné des très bons résultats. Aujourd'hui, en RDC, qu'on se le dise, 8 personnes sur 10 guérissent avec ce protocole. Mais aussi notre pharmacopée traditionnelle qui est très riche, n'est-ce pas, en produits et en aliments qui nous aident justement à supporter les symptômes. Ok, non seulement tout ce qui est fruits riches en vitamine C, nous avons des expositions vapeur, nous avons pas mal, n'est-ce pas, d'éléments dans notre pharmacopée traditionnelle qui aident justement à supporter les symptômes. Mais encore une fois de plus, je préfère que les gens qui y recourent avec des conseils, n'est-ce pas, de ceux-là qui l'ont fait, mais des conseils surtout des professionnels de santé, parce que n'oubliez pas que les médicaments sont des poisons. Les médicaments sont des drogues. On ne croise pas les médicaments n'importe comment. On ne s'achète pas ça avec ça, avec ça, avec ça. Il y a des médicaments qui ne s'associent jamais. Il y a des médicaments qui s'associent. Donc, si vous n'arrivez pas à faire des bons choix ou des bonnes associations, cela peut nuire à votre santé. Donc, encore une fois de plus, il faut suivre le protocole national. Nous avons la chance d'avoir ces médicaments ici chez nous et ces médicaments sont donnés gratuitement grâce aux efforts du gouvernement avec l'appui des partenaires. Pourquoi ne pas les utiliser? Nous avons des structures de santé qui sont intégrées et qui ont été capacité dans la prise en charge de la COVID, il faut les consulter, tout en sachant que les besoins sont encore immenses, que les défis sont encore énormes. Ensemble, nous y travaillons pour voir comment on améliore la couverture en soins de qualité pour les patients, je veux dire pour la population en général.
L'implication de toute la communauté dans la lutte contre le COVID-19, le respect des mesures barrières, la vaccination constitue le socle de lutte contre le COVID-19, conclut le docteur Michel Mouvoudi, nous rappelant qu'il est membre de l'équipe de sensibilisation contre le COVID-19 en RDC.
Moi, ce que je vais demander à la population, c'est que d'abord, j'ai toujours parlé de ça tout le temps, c'est que les gens comprennent que la lutte contre la COVID est une lutte collective et n'est pas seulement une lutte des personnels de la santé. Parfois, j'entends, oui, mais qu'est-ce que les gens ont fait? Les médecins n'ont rien fait. C'est une lutte collective et cette lutte va beaucoup se pencher, beaucoup réussir avec l'implication de la population. Et je ne cesse de le dire, depuis le mois de mars 2020, la participation communautaire reste le socle de cette lutte. Okay? Donc, j'invite notre population à nous accompagner, que ça soit dans le respect des mesures barrières, que ça soit dans la prise du vaccin. Que tout ce que les gens ont appris, tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Vous avez vu, à la première heure, nous-mêmes, nous avons été vaccinés. On est là, d'accord? Pas mal de gens se sont fait vacciner. Tout ce qu'on racontait, qu'il y a des gens qui vont se transformer en zombies, il y a une puce, il y a 666 qu'on mettra sur la figure. On a compris que tout ça a été faux et archi faux. Les mêmes personnes qui l'ont dit, ces mêmes personnes aussi, ont fini par se faire vacciner. Donc, j'invite la population à une grande participation par rapport à cette situation. Deuxièmement, c'est que les gens puissent avoir le discernement. Si nous avons le temps de passer sur les chaînes comme ça, parler à la population, c'est pour que les gens comprennent qu'on est dans un domaine spécialisé. Chaque fois que vous avez une question, posez cette question au spécialiste. C'est pas parce que vous avez suivi une vidéo dans un réseau social, c'est pas parce que quelqu'un vous a envoyé une photo que tout de suite cela est vrai. Il y a justement des gens dont le travail est de monter des fausses informations afin de désengager les autres. Vous avez vu cette pandémie, on a perdu beaucoup de gens. Il y a des familles aujourd'hui qui sont endeuillées, il y a des enfants qui sont restés orphelins, il y a des femmes qui sont restées veuves, des hommes qui sont restés veufs, et c'est une situation qui m'accable personnellement parce que beaucoup ont succombé aussi par incrédulité. Lorsqu'on disait que la Covid existait, la maladie, elle a fait attention, il y a des gens qui refusaient, et malheureusement, quand la Covid est passée par leur maison, il y a eu des morts, et ça, ce n'est pas des choses souhaitées. Donc, la meilleure de façon, c'est d'avoir le discernement, de comprendre ce qui se passe, de suivre ce qu'on dit, et d'être très prudent. Je crois qu'il serait important que nous puissions travailler ensemble pour que cette maladie termine ou qu'on arrive à développer des mécanismes ou des moyens pour pouvoir vivre avec, mais tout en restant vivant. Et ça, c'est mon dernier point, c'est que la Covid nous a appris beaucoup de choses. La Covid nous a donné beaucoup de leçons. Ceux qui ont lu mon livre « Sans questions-réponses pour comprendre la Covid-19 », j'ai montré justement que nous devons tirer les leçons de cette pandémie pour pouvoir rebâtir notre système de santé, notre système d'éducation. Aujourd'hui, on comprend maintenant la nécessité d'investir beaucoup dans les hôpitaux. On comprend la nécessité, par exemple, de travailler beaucoup sur la régulation de l'information et éviter que chaque fois qu'on a de telles situations, que n'importe qui puisse dire n'importe quoi. Mais donc, on a encore besoin de renforcer notre capacité. Et la maladie a eu des répercussions énormes sur les secteurs sociaux, sur l'économie, n'est-ce pas? Et donc, vous avez vu qu'une des choses aussi sur laquelle on doit se pencher, c'est comment travailler davantage sur les mécanismes d'atténuation d'impact socio-économique. Comment on devient plus un pays qui travaille sur la transformation locale que seulement sur l'exportation et l'importation, parce qu'avec le confinement, vous avez vu qu'il y a eu des pertes en production énormes à cause du fait que beaucoup de pays étaient confinés. Donc, je crois que nous devons commencer de plus en plus à changer notre modèle de vie, notre modèle d'économie, parce que finalement, la Covid nous a montré que nous ne pouvons pas être résilients. Si on n'investit pas beaucoup dans le capital humain, ça veut dire tout ce qui est santé, éducation, ainsi de suite, nous ne pouvons pas être résilients si nous ne transformons pas nos économies à être des économies de transformation locale que des économies seulement d'importation et d'exportation. Parce que, rappelez-vous, jusqu'à aujourd'hui, l'import et l'export sont devenus très difficiles à cause justement de la situation sanitaire mondiale qui est détériorée. Et je crois bien que nous devons aller vers un horizon où on se dit, on va vivre avec la Covid-19. En tout cas, on va vivre avec elle. Maintenant, il est question de développer des mécanismes, de développer des capacités à pouvoir bien contrôler la maladie. Okay? Comme on vit avec aujourd'hui la malaria, la fièvre typhoïde, ainsi de suite. Aujourd'hui, ces maladies ne font pas peur parce que nous avons des traitements, nous avons des moyens de prévention connus qu'on peut utiliser et ne pas mourir. Donc, je crois que c'est la même démarche, à la fois d'économie de la santé, mais aussi de santé publique, sur laquelle nous devons cheminer pour le bien-être de nos populations.
Fin de ce numéro de Maïcha Bora de ce jour consacré à la riposte contre la quatrième vague de la Covid-19 en RDC. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Gisèle Serlet à la mise en nom de ce magazine sous la supervision de Jean-Marc Matoy au micro. C'était Marcel Ngomombala. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Maïcha Bora. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à respecter les gestes barrières contre le Covid-19. Aussi, faites-vous vacciner. À très bientôt.